L'amorce. L'amorce avec Jean-Simon Buis.
C'est toujours avec un petit sourire supplémentaire que je vous dis qu'on est rendu vendredi, le 4 octobre, 5 pile. J'espère que la semaine a été bonne pour vous et que vous envisagez le week-end avec enthousiasme, que vous avez des belles activités prévues pour les prochains jours. Avis de gel au sol, hein, ce matin, encore une fois. C'est un peu moins froid. Ça a été un petit peu moins froid que la nuit dernière où est-ce qu'on avait, on était tombé en bas de zéro. De mon côté, c'était plus de la pluie, là. Je sais pas, dépendamment des secteurs, c'était comment, là. Dites-moi où est-ce que vous êtes au 25-226 et c'est quoi la température ce matin. Par contre, il y a de la pluie un petit peu, là, un petit peu de pluie qui tombe. Rien de trop torrentiel, mais quand même quelques gouttes de pluie pour vous réveiller ce matin. Pour ce qui est d'aujourd'hui, c'est pas une journée magnifique qui est attendue, là. Je vous prévoyais plus beau que ça hier. Ça a changé un petit peu dans les dernières heures. Aujourd'hui, finalement, c'est de la pluie intermittente qui est prévue et qui devrait cesser ce matin. Par contre, par la suite, on dit alternance de soleil et de nuages. Et donc, on devrait atteindre 9 degrés au mercure comme température aujourd'hui. Donc, rien de très, très chaud non plus. Demain, samedi, c'est là que ça se passe. C'est la journée qu'on attend avec impatience. Une belle journée ensoleillée avec 12 degrés comme maximum au mercure. Donc, très agréable pour un samedi. Et dimanche, par contre, là, on attend encore de la pluie intermittente. Si je regarde les détails, c'est pas mal toute la journée, des nuages, maximum de 12. Mais la tendance à long terme est au réchauffement la semaine prochaine. Ça, c'est une bonne nouvelle. Les maximums actuels dans les normales de saison, on sera à 13 degrés, alors que la semaine prochaine, on devrait frôler les 18 à un moment donné dans la semaine. On est encore à long terme, mais ça devient intéressant là, d'avoir du soleil en prévision à long terme avec des températures un peu au-dessus des normales de saison. Chaque degré supplémentaire, on le prend. Je vous dirais, à ce temps-ci de l'année, rendu au mois d'octobre, chaque petit degré fait la différence et nous rend un peu plus souriants chaque matin. Présentement, on a 5 degrés à Québec, 5 petits degrés avec de la pluie. Donc, pour démarrer ce vendredi 4 octobre. Dans l'actualité ce matin, à quoi savoir, quoi pour alimenter vos conversations aujourd'hui? Un petit retour d'abord sur le débat des chefs à TVA avant-hier. On en a parlé beaucoup hier, évidemment. On a analysé, on a décortiqué, on a analysé l'analyse également. Là, on est allé loin là-dedans. Je veux juste revenir sur une des questions principales qui avait occupé, disons, la première période ou le premier round du débat, qui était la question de l'avortement. Souvenez-vous que Andrew Scheer, le chef conservateur, s'était fait talonner de façon assez importante par les autres chefs, notamment Justin Trudeau. Donc, on réécoute un peu ce que ça avait donné lors du face-à-face à TVA avant-hier.
Est-ce que vous croyez, en tant que chef, en tant que leader, en tant que père, en tant que mari, que les femmes ont le droit de choisir, M. Scheer?
Je crois que les Canadiens et Canadiennes savent qu'un gouvernement conservateur ne va pas réouvrir ce débat.
Je pense, M. Bruno, on est en train de voir qu'on est trois alignés sur les valeurs des Québécois, et on a un quatrième, un parti conservateur, qui n'est pas aligné. C'est important pour les gens de savoir personnellement, toi, Andrew Scheer, est-ce que vous croyez qu'une femme devrait avoir le choix?
Alors, vous le savez très bien que quand j'étais toujours ouvert avec ma position, la chose qui est essentielle...
Non, vous n'avez pas été ouvert. Personnellement,
je vais assurer qu'un gouvernement conservateur ne va pas réouvrir ce débat.
Ça avait donné le ton un petit peu au débat et ça avait empêtré un peu le chef conservateur qui avait eu du mal un peu à rebondir de ces événements-là. Puis évidemment, comme la majorité des gens écoutent seulement le début du débat, ben ça a peut-être donné une image un peu négative du chef conservateur. Et beaucoup d'analystes se sont posé la question, pourquoi il n'a pas répliqué, pourquoi il n'a pas été tout simplement clair dans sa réponse, Andrew Scheer. Ben finalement, hier, évidemment, les journalistes sont revenus lors de conférences de presse sur les différentes réponses, réactions et questions posées au chef là, pendant le débat. Et la question a été posée à Andrew Scheer. Êtes-vous pro-vie ou êtes-vous pro-choix? Et finalement, bon, je sais pas si c'est pendant la nuit, ces stratèges politiques qui ont dit, là, on va arrêter de tergiverser, Andrew, mais ça serait le temps de donner une réponse puis d'arrêter de rester là-dedans, dans cette problématique-là. Mais là, cette fois-ci, on pourra pas taxer de pas avoir été clair. Il a donné une réponse qui est assez précise et directe.
J'ai toujours été clair sur cette question. Je suis personnellement pro-vie. J'ai toujours répondu les questions. Mais la chose la plus importante pour tous les Canadiens, tous les Québécois, c'est le fait que j'ai fait un engagement que, comme premier ministre, je ne vais pas ouvrir ce débat.
Maintenant, ben, le reste vous appartient. Est-ce que c'est quelque chose qui vous suffit? Dépendamment de vos valeurs, évidemment. Là, ça se peut qu'il y en ait qui soient plus du côté d'Andrew Scheer sur le plan des valeurs, mais si, par exemple, vous êtes pro-choix, est-ce que ça suffit pour vous, un chef qui admet personnellement avoir une opinion qui est un peu contraire à l'ensemble de la population ou à une majorité de la population, mais qui affirme que le gouvernement ne va jamais aller là-dedans. La décision vous appartient rendue là, mais au moins, c'est clair. C'est un peu tard pour lui. Peut-être qu'il s'est un peu sabordé pendant le débat et qu'il aurait dû, dès lors, répondre directement à la question. Mais là, présent, au moins, hier, il est revenu et il est allé d'une réponse qu'on ne peut pas lui reprocher de ne pas être clair. Et évidemment, ça a rattrapé les candidats conservateurs à Québec. Hier, il y avait une conférence de presse en lien avec l'eau potable à Québec. Aucun lien, évidemment, avec l'avortement. Mais vous aviez là la majorité des candidats dans la région de Québec pour le Parti conservateur. Et ils ont dû se débattre un peu avec cette question-là et se faire demander tour à tour s'ils étaient pro-choix ou pro-vie. Et du côté de la région de Québec, tous les candidats ont dit on est pro-choix, mais on est capable de respecter la position de notre chef. Là. C'est le député Pierre Paulus qui a dit c'est son choix à lui. L'important, c'est que d'un point de vue politique, un gouvernement conservateur ne va pas l'ouvrir le débat. Dans le Journal de Québec, on lit que les candidats conservateurs sont visiblement agacés de se faire talonner là-dessus. C'est sûr, c'est pas une question qui était très, très d'actualité au Québec, là, jusqu'à ce que la campagne électorale fédérale embarque. Alors voilà, vous avez la position finalement d'Andrew Scheer sur l'avortement. On poursuit avec un second élément important dans l'actualité. Celui-là, c'est une belle victoire pour les gens qui se sont rendus en cours supérieur, des gens qui souffrent énormément et qui avaient qui demandaient le droit de choisir de quelle manière le point final à leur vie allait être apposé en quelque sorte. Parce que vous savez que jusqu'à tout récemment, la loi sur l'aide médicale à mourir avait différents facteurs, différentes exigences avant de pouvoir être appliquées. Vous ne pouviez pas demander ça n'importe comment, évidemment. Le critère des souffrances intolérables était là, mais également celui de la mort inéluctable, c'est-à-dire qu'on devait être certain que la personne allait mourir dans une certaine échéance avant d'accorder l'aide médicale à mourir à quelqu'un qui en faisait la demande. Et on s'était rendu en cour supérieure, on avait fait un combat là, pour parvenir à outrepasser ce projet de loi-là, cette loi-là en fait, et peut-être la modifier pour ne pas avoir cette condition d'une mort obligatoire à court terme. C'était le point qui était attaqué. Et finalement, il y a eu gain de cause de la part des demandeurs, et la Cour supérieure a statué que la loi était inconstitutionnelle, qu'il fallait permettre aux gens qui étaient dans des souffrances importantes, mais pas nécessairement menacés de mort à court terme, de demander l'aide médicale à mourir. Et là, la question qui pesait un peu sur les épaules de tout le monde, c'est est-ce que le gouvernement fédéral ou provincial, parce que ça touche un peu tout le monde, cette loi-là. Il y a des dispositions dans la loi québécoise, mais dans la loi canadienne aussi, par rapport à l'aide médicale à mourir. Est-ce que les gouvernements vont aller en appel de cette décision-là, vont porter le jugement de la Cour supérieure en cour d'appel? On a eu la réponse hier. Les gouvernements n'iront pas en appel, c'est officiel. À partir de ce moment-là, les gens qui vont vouloir faire la demande d'aide médicale à mourir et qui vont satisfaire aux autres critères, donc une douleur intolérable qui ne peut pas être soulagée par des moyens médicaux de façon satisfaisante, vont pouvoir faire la demande d'aide médicale à mourir. Hier, au 98.5, il y a la fille d'une dame qui était dans cette situation-là et qui, elle, était un peu aux prises avec l'ancienne loi, c'est-à-dire celle qui demandait la mort à court terme, la mort prévisible. Eh bien, cette fille-là se dit soulagée, mais sa mère, par contre, puisqu'elle était sous le joug de cette loi-là, a dû se laisser mourir de faim. Imaginez, on l'écoute.
C'est une mort, évidemment, qu'on ne souhaite à personne. Et malheureusement, il a fallu que des gens comme ma mère aient à passer par cette dure étape-là, cette dure mort-là, complètement indigne pour pouvoir éventuellement faire valoir le point que la loi n'était pas ajustée.
Et on est allé interroger, bien entendu, Véronique Yvon, qui pilotait Mourir dans la dignité à l'époque à l'Assemblée nationale. Et elle, ce qu'elle a mentionné, c'est la société est rendue là maintenant, les gens semblent. Et c'est vrai qu'on sent un certain consensus en lien avec l'aide médicale à mourir. On sent pas une levée de bouclier importante dans la population par rapport à cette question-là. On sent que les gens veulent, acceptent que les personnes qui souffrent de façon importante, puissent choisir un peu les moyens de mettre fin à cette souffrance-là, dans les limites, évidemment, de ce qui est éthique. Troisième point sur lequel je veux m'attarder aujourd'hui, on s'en va dans le trafic, on change de registre complètement. Vous savez que sur notre tête plane un peu le spectre de travaux importants en lien avec le tramway, le réseau de transport structurant dans les prochaines années à Québec. Ça va causer un lot de problèmes un peu partout dans la ville. partout où est-ce que le tramway va passer, il va y avoir des chantiers épouvantables. On va se le dire, là, que vous soyez pour ou contre le tramway, les travaux vont être importants. Je pense que il faut pas se leurrer, là. Ça va causer des ennuis, des maux de tête aux automobilistes et aux commerçants. Récemment, on apprenait que les commerçants allaient être dédommagés d'une certaine façon. Je pense pas que les automobilistes vont être vraiment dédommagés, là. Vous recevrez pas un chèque par la poste de la ville en disant on a baissé vos taxes ou on vous donne un peu d'argent pour baisser les inconvénients des travaux que vous allez subir. Et parmi les artères qui étaient visées au départ, le trambus, qui est un peu le pendant, le complémentaire au tramway, là, un réseau d'autobus qui va supplémenter le tramway dans le réseau de transport structurant, devait passer sur le boulevard Hochelaga, qui est un secteur névralgique. Là, vous êtes pas loin du boulevard Laurier. Souvent, ça bloque. Là, les gens qui empruntent la Vigerie, là, la rue entre Hochelaga et Laurier le savent. Là, souvent, à l'heure de pointe, c'est très difficile de pouvoir tourner sur l'une ou l'autre de ces rues-là. Alors, il y avait des travaux au départ qui étaient prévus pour l'agrandissement d'Hochelaga dans le but de faire passer des trambus. Alors, ce que la ville avait dit au mois de mars, c'est écoutez, ça fait partie des travaux pour le projet de transport structurant, donc il n'y a pas de problème, là. L'enveloppe de 3 milliards de dollars qui provient des gouvernements supérieurs ou bien qui vont être fournis par les paliers gouvernementaux de fédéral et provincial, ben ça va être inclus là-dedans, ça va être une partie du projet, une partie inhérente du projet. Or, hier, c'est pas ça qu'on a appris. C'est un peu un revirement de situation. C'était, à chaque mois, là, il y a un update sur l'avancement des travaux dans le cadre du projet de transport structurant. Il y avait Rémi Normand qui était là, évidemment, et qui, finalement, a été obligé d'avouer que ce ne serait pas à même le projet de transport structurant, mais que ce serait plutôt assumé par la ville, à la charge de la ville de Québec. Et là, bon, il y en a plusieurs qui vont dire, ben ça veut dire que c'est plusieurs millions de dollars qui se rajoutent à la facture. C'est une façon de le voir. C'est quand même plus de 60 millions de dollars qui se rajoutent dans une autre, qui vont être payés par les contribuables, dans le fond, en dehors du projet de tramway. Mais Rémi Normand dit que c'est pas ça, que finalement, ça avait toujours été prévu et que c'est juste de passer de la poche gauche à la poche droite. On l'écoute.
On peut changer d'idée. Idéalement, si on avait pu le faire financer, on l'aurait fait financer, hein? Mais il n'allait pas là. Il fallait le faire de toute façon, ces travaux-là.
OK. Est-ce que ça tombe dans le 300 millions de la ville, donc?
Non.
Alors, c'est simplement de l'amélioration de la ville,
exactement,
du réseau routier.
Puis vous allez en voir d'autres dans le futur. Je vous le dis, là, soyez pas étonnés. Vous allez en voir d'autres au fur et à mesure des années, là, d'autres travaux de cette nature-là.
Bon, alors vous comprenez que, oui, évidemment, il y en a qui vont me dire, de toute façon, que ce soit provincial, fédéral, Québec, on paye de toute façon. Oui, mais c'est comme à part, là. Donc, ça sent un peu l'augmentation, mais vous voyez qu'on tente de le faire passer plutôt comme, ah, ben de toute façon, c'était prévu, il fallait faire les améliorations, puis pendant les travaux, on en a besoin. Puis ce qu'on va faire, concrètement, c'est deux voies supplémentaires. Présentement, c'est à quatre voies, là, donc deux voies de chaque côté sur Hochelaga. On va aller chercher un six voies pendant la durée des travaux du tramway, et ça va servir aux automobilistes. Ce ne sera pas des voies réservées pour le transport en commun. Bon, vous comprenez que l'opposition à la Ville de Québec a mordu là-dedans, puis est allée dire justement que c'est une augmentation de coûts. Alors, on peut écouter Jean-François Gosselin, sa réaction quant à ce changement un peu de financement pour les travaux d'élargissement sur Hochelaga.
On est rendu à 387 millions de dollars, et vous savez quoi? C'est loin d'être fini, ça ne fait que commencer. Les mauvaises surprises ne font que commencer. Et Rémi Normand a menti aux citoyens de la Ville de Québec.
Bon, est-ce qu'on parle de mensonge? Je sais pas, là. J'irais peut-être pas jusque-là. Peut-être qu'il pensait réellement à ce moment-là que le trambus allait passer dans ce secteur-là. Mais force est d'admettre que dans un projet de cette ampleur-là, qui est un projet immense, là, de 3 milliards, 3,3 milliards de dollars, c'est probablement pas la dernière surprise qu'on va avoir, là. Est-ce qu'il va y avoir, à un moment donné, d'autres tracés qui vont être revus? Donc, si je comprends bien, moindrement, par exemple, qu'il y a une artère où est-ce qu'on pensait passer le trambus ou le tramway et qu'on décide finalement que ça marche pas pour différentes raisons, ben à ce moment-là, ça peut plus être dans l'enveloppe du projet de transport structurant. Donc, ça veut dire qu'au fur et à mesure que le projet va avancer, ça se peut qu'on se retrouve avec des factures supplémentaires assumées par la ville parce que c'est des travaux qu'on doit faire. Je sais pas si ça regarde bien vraiment là pour les travaux. Sauf que si vous pensez vraiment que le projet de tramway va coûter 3,3 milliards de dollars point à la ligne, ben vous avez peut-être pas suivi exactement ce qui s'est passé dans les dernières années au Québec en termes de dépassement de coûts. Remarquez, bon, le Centre Vidéotron, ça coûtait moins cher un peu là, mais un projet d'une ampleur de 3,3 milliards de dollars, c'est quelque chose pareil. Donc effectivement, Alain nous fait remarquer que tout dépendant de qui paye, c'est dans la ville, ça rajoute un fardeau fiscal pour les contribuables de la Ville de Québec, effectivement. Le 3 milliards, il est assumé par l'ensemble de la population canadienne et québécoise, tandis que la facture pour des travaux ponctuels par la Ville de Québec est assumée seulement par les contribuables qui paient des taxes dans la Ville de Québec. 5h15, courte pause, au retour au Jazz de sport avec Dan Pou.
Le retour d'Éric Duhaime avec Éric Duhaime et Marc Boilard.
J'ai vu Yves-François Blanchette qui était là avec sa gang de bloquistes. Je pense que Pelado était avec eux autres. C'était la grosse affaire.
Ta gang, ça.
Ma gang.
Là, c'est rendu la gang, mais avant, c'était ta gang. Là, c'est tout le monde avec qui t'as travaillé. Tu sois pas gêné de ça. Renie-la pas.
On fait toutes des erreurs de jeunesse. Là, toi, t'es pire que moi. T'étais avec Jean Charest.
Éric Duhaime et Marc Boilard dans le retour. Lundi au vendredi, 14h, au FM 93. Ça me parle.
Vous entendez ça? Ça, c'est les dollars que vous allez sauver en chauffage cet hiver grâce à Enviro-Confort. C'est le meilleur moment pour vous procurer une thermopompe chez Enviro-Confort. Profitez de remises allant jusqu'à 1 700. En plus, Enviro-Confort liquide tous ses climatiseurs. 300 de rabais sur tous les climatiseurs en inventaire. Offrez-vous la paix d'esprit avec les plus grandes marques de l'industrie, comme les produits Panasonic. Alors, si vous voulez que cet argent-là tombe dans votre tirelire, visitez Enviro-Confort. Enviro-Confort.com.
Pierre Fortin, quand on arrive plus puis qu'on prend rendez-vous chez vous, comment ça se passe?
Éric, on peut habituellement obtenir un rendez-vous dans les 48 heures. Il y a deux objectifs à cette rencontre. D'abord, rassurer la personne en répondant à toutes ses questions et ensuite, analyser sa situation financière en lui suggérant des solutions. On comprend ce que vivent les gens et on est là pour les aider et les accompagner. Enfin, le processus vers la meilleure solution peut être enclenché dans les jours qui suivent. C'est donc très rapide.
JeanFortin.com, syndic autorisé en insolvabilité.
Solaris Québec, porte et fenêtre.
Sylvain, tu vas pas me parler de Noël?
Absolument, Joanne. Il y a plein de gens qui veulent pas repasser un temps des fêtes dans une maison où l'air froid entre par les fenêtres.
Ah, je comprends où tu veux en venir. Tu veux dire à ces gens-là d'aller chez Solaris maintenant pour réserver leur date d'installation avant Noël.
C'est ça. Et chez Solaris, on achète directement du fabricant. On a donc un meilleur suivi et on économise gros.
Pas pour rien que Solaris installe les meilleures portes et fenêtres depuis plus de 45 ans.
Solaris Québec, porte et fenêtre.
Au 710 rue Bouvier.
C'est le festival de crevettes à la Casa Grecque. Savourez une assiette de crevettes papillons servies avec sauce à l'ail et de succulents accompagnements pour seulement $15.95. Tous les jours, pour un temps limité, nos légendaires crevettes papillons pour $15.95. Et n'oubliez pas d'apporter votre vin.
Une étude clinique chez Syneos Health, c'est aussi sécuritaire que mettre des petits trous sur votre vélo stationnaire et de porter un casque. Bref, vous êtes entre bonnes mains. Et en ce moment, on est à la recherche d'hommes et de femmes non-fumeurs âgés de 18 à 55 ans pour conduire une étude clinique. Les compensations peuvent aller jusqu'à 5 000. Rendez-vous sur monétudesineossanté.com ou appelez-nous au 1-866-262-7427. Syneos Health. Pour un futur en santé.
Mesdames, destination Mau Boutique. De l'exclusivité pour tous les styles, mais un seul item par taille pour un look distinctif. Robes, tuniques, jupes, pantalons, chandails, vestes, manteaux et accessoires pour tous les budgets. Des marques reconnues, Luc Fontaine, Tricoteau, Franklin Mann, Sandwich, Joseph Ripkoff, Désigual, Atelier, Lois. Offrez-vous le savoir-faire de Mau Boutique. Diversité, qualité et exclusivité. Mau Boutique, à 2 minutes des ponts, 1170 rue de Courchevel, voisin du cochon dingue. Mon boutique.
L'amorce avec Jean-Simon Buis. Lundi au vendredi, 5h, au FM 93.
C'est vendredi, le 4 octobre 2019. J'espère que vous allez bien ce matin, que vous avez passé une bonne semaine et que le week-end vous réserve de belles surprises. À la météo, c'est moyen comme surprise ce matin, car vous allez ouvrir la porte. C'est un peu de pluie présentement qui tombe à Québec. Pluie intermittente qui devrait cesser en fin de matinée. Par la suite, dégagement, alternance de soleil et nuages qui devrait donner le ton pour une très belle journée demain. Parce que demain samedi, on prévoit 12 degrés comme maximum, généralement ensoleillé. C'est la belle journée de la fin de semaine parce que dimanche, ça s'ennuage à nouveau. On va atteindre 12 degrés avec de la pluie intermittente toute la journée. Tendance à long terme au réchauffement, légèrement au-dessus des normales de saison, parce que présentement, c'est 13 le maximum. Et c'est le 15 à 18 les maximums qu'on attend entre lundi et jeudi. Évidemment, on est à long terme, mais ça regarde assez bien pour la semaine prochaine présentement. Et pour le moment, c'est 5 degrés à Québec. Dan Pou, bon matin.
Salut, Jean-Simon.
Ouverture de saison attendue du Canadien hier. Est-ce qu'on peut parler de victoire morale?
Non, c'est pas une victoire morale. Je pense même que le Canadien a échappé un point hier en Caroline.
OK.
Je t'explique. C'était 2-0 pour les Hurricanes. C'est venu 3-2 pour le Canadien et ça s'est terminé 4-3 pour les Hurricanes. Quand tu es sur la route puis tu joues contre une équipe qui n'est pas une puissance de la Ligue nationale puis tu mènes, il faut que tu t'arranges pour gagner ce match-là. Par contre, je te dirais que c'était le premier d'une longue série de matchs. Et ça, peut-être qu'on pourra s'amuser dans l'amorce en cours de saison. Tu pourras me demander les lendemains de match du Canadien. Est-ce que, Dan, hier, c'était un match de 3 points? Parce que hier, c'était un match de 3 points.
Déjà le premier match de 82 matchs suivant avec un match de 3 points.
C'est quoi un match de 3 points? C'est un match qui oppose deux équipes qui sont à mi-chemin entre les bas-fonds de la Ligue et les puissances de la Ligue nationale.
Donc, qui rivalisent pour une place en série.
Exact. Caroline et Montréal qui s'affrontent, c'est un match de 3 points. On a eu le résultat hier, ça s'est terminé en tir de barrage à la faveur de la Caroline, parce que les joueurs du Canadien n'en ont pas mis une dedans derrière Petr Mrazek. Puis le but qui a fait la différence, là, c'est un but de Dougie Hamilton. C'est un superbe but. Quand, en tir de barrage, t'envoies un défenseur, c'est parce que ton défenseur, il est bon, pas à peu près en échappé. Christopher Letang, des Pingouins, a été longtemps utilisé par ses entraîneurs. Hier, Dougie Hamilton, le premier à se présenter, j'ai dit, oh, il y a de quoi, là. Et ça veut dire qu'il est capable. Puis il a fait une feinte comme les meilleurs joueurs de la Ligue sont capables d'en faire. Price pouvait à peu près pas arrêter ce lancer-là. Résultat, le Canadien a un point. Les plus optimistes vont passer la fin de semaine à dire comme toi, hey, victoire morale.
Ça sent la coupe.
Ben, non, pas ça sent la coupe, mais c'est ça. On est allé chercher un point, puis c'est pas si mal. Ouais. Pis, t'sais, mais quand tu reviens puis tu mènes 3-2, moi, je pense qu'il faut que tu gardes le rythme, il faut que tu l'emportes. Finalement, le Canadien l'a échappé. Ça a été un match difficile pour le jeune défenseur Cale Fleury. Tu sais qu'on en a parlé beaucoup quand entraînement. Hier, une belle histoire, il affrontait son frère, Aiden Fleury, qui joue pour les Hurricanes. Nick Suzuki a été utilisé en tir de barrage comme troisième joueur du Canadien. Et ça, je salue la décision de Claude Julien. Premier match dans la Ligue nationale, Nick Suzuki a un talent immense. Claude Julien lui fait confiance. Il a manqué son bout. Puis le Canadien a perdu, mais le Canadien n'a pas perdu à cause de lui.
Mais non.
Tu comprends? Fait que ça, dans le bar sportif où j'étais hier soir pour regarder le match, autour de moi, parce qu'on ne sait pas encore qui va être le troisième, les gens se sont dit « Ouais, ça devrait être Suzuki. » Puis quand on a vu à l'écran Suzuki au centre de la patinoire, il y a une réaction dans le bar sportif. Les gens disent « Yes! » C'est déjà...
Il y a un petit buzz.
Ouais, c'est ça. Il y a un buzz Suzuki. C'est déjà un des favoris des partisans du Canadien. Fait que ça, c'est bien le fun. Jesperi Kotkaniemi a marqué un premier but en carrière sur la route. L'année dernière, il n'a pas marqué un. Hier, ça a été un maudit beau but. Puis, je te dirais, dans la colonne des fleurs, je donnerais une fleur à Jonathan Drouin pour son match. J'en donnerais une à Thomas Tatar, mais surtout à Joel Armia. Joel Armia a complété à merveille un trio de Drouin et de Kotkaniemi. Joel Armia a joué tout un match hier. C'est un gros gars. C'est un droitier. Il s'est impliqué. Il a créé des chances de marquer pour le Canadien. Malheureusement, défaite en tir de barrage. Prochain match est demain à Toronto.
Merci beaucoup, Dan.
À tantôt.
À dans quelques minutes. C'est peut-être un de vos cauchemars si vous êtes parent de jeunes de 10 à 17 ans. Je parle du jeu Fortnite, un jeu vidéo qui fait grand bruit depuis les derniers mois parce que c'est un des plus populaires au monde. Un jeu qui est gratuit. C'est un shooter, donc un jeu de tir à la troisième personne. Vous êtes un bonhomme dans une grande carte et le but, c'est de tuer tout le monde sur la carte et d'être le dernier qui vivant, grosso modo. On appelle ça un concept de battle royale, OK? Et plusieurs parents, notamment, ont dit « ça n'a pas de bon sens, mes enfants sont complètement accros, on n'est pas capable de les tasser de Fortnite ». C'est l'avis d'un cabinet légal qui va porter en cours une action collective contre l'entreprise américaine qui a créé Fortnite, Epic Games, le cabinet d'avocats Calex Legal de Montréal, qui veut que la Cour se prononce en disant que Fortnite encourage volontairement la dépendance aux jeux vidéo. Au même titre que la cigarette cause la dépendance, ce cabinet-là veut démontrer qu'il y a un problème avec ce jeu-là, que tout est fait pour entraîner une dépendance qui est néfaste pour les joueurs qui se retrouvent pris dans le piège de Fortnite. Alors, Calex veut prouver que Fortnite a été conçu pour être le jeu le plus addictif possible par des psychologues qui ont travaillé avec des cobayes pour s'assurer que l'attention ne serait jamais perdue de la part des joueurs. On dit que les mêmes tactiques sont utilisées par les concepteurs de Fortnite que les créateurs des machines à sous avec des récompenses qui varient là, selon les moments dans le jeu, qu'on utilise les données sur les joueurs, qu'on utilise l'intelligence artificielle pour découvrir ce qui les raccroche. Et ce sont les mêmes arguments qu'on a utilisés, notamment pour des recours collectifs contre les fabricants de cigarettes. Ce sont des articles légaux. Là, l'obligation de ne pas causer préjudice à autrui. Le devoir des manufacturiers d'informer les clients des risques et dangers de leurs produits. Alors, vous comprenez que Fortnite, il n'y a pas d'avis qui indique que vous pourriez avoir une dépendance qui s'ensuit de jouer à ça. Et effectivement, on présente des cas où est-ce que des jeunes sont incapables de se débarrasser de Fortnite. Un petit garçon, par exemple, de 10 ans, qui a joué 1891 parties de Fortnite depuis décembre. Ça crée des conflits. En plus de ça, il a fait dépenser ses parents 600$ pour des accessoires Fortnite. Un autre qui a 15 ans a participé à 7781 parties en moins de 2 ans. 3 heures par jour minimum de Fortnite. Ça nuit à son sommeil, ça nuit à son école. Alors, les effets sont évidents pour plusieurs joueurs qui sont pas capables d'arrêter d'y jouer. Maintenant, est-ce qu'un recours collectif va fonctionner? Est-ce qu'on va être capable de démontrer que Fortnite, en quelque sorte, c'est une drogue qui n'a pas été présentée comme telle par les concepteurs? On est encore loin de là. Mais c'est intéressant de voir que dans une époque où est-ce que le virtuel prend de plus en plus de place, la drogue, c'est pas nécessairement quelque chose qu'on fume ou qu'on s'injecte. 5h26, merci d'avoir été là dans l'amorce. Je vous souhaite un bon week-end, mais dans quelques minutes, ben, c'est Bouchard en parle qui commence. Et pour ce qui est de l'amorce, lundi matin, 5h, soyez au rendez-vous. Ciao!
Les meilleurs moments sont disponibles maintenant sur fm93.com. Bouchard en parle commence après cette courte pause.